Donc, on va commencer l'étude du roman. Je vous rappelle les quatre objets d'étude. Le roman, le théâtre, la poésie, l'argumentation. Donc, en ce qui concerne l'étude du roman, je vous rappelle que le projet est le suivant. Le roman et ses personnages, vision de l'homme et du monde. À partir des questions que soulève l'étude des personnages, il s'agira d'aborder le roman comme une forme littéraire privilégiée de représentation de l'homme et du monde. En situant une œuvre dans son contexte littéraire, historique et culturel, on s'interrogera sur l'évolution du genre romanesque. L'évolution du genre romanesque, c'est une des questions qui vous était posée là tout de suite. Néanmoins, dans ce qui vous est dit au début sur l'étude des personnages, il s'agira d'aborder le roman comme une forme littéraire privilégiée de représentation de l'homme et du monde. Ça nous dirige tout droit vers ce qu'on appelle l'écriture réaliste, c'est-à-dire vers Flaubert d'une certaine manière, ou naturaliste, vers Maupassant, ou vers le roman social, c'est-à-dire vers Zola, Germinal par exemple. Peut-être aussi vers la comédie humaine de Balzac. Vous savez que c'est un titre général qu'il a donné à toute sa production, une énorme production, hein, puisque Balzac était une espèce de forçat de l'écriture, hein, qui marchait à coups de... Alors il ne se shootait pas à la coque comme certains, il marchait à coups de café. Donc le slogan, c'est la cafetière est sur la table. Hein. Donc la comédie humaine de Balzac... Hein, on est plutôt ici dans le roman naturaliste, c'est-à-dire qu'on étudie les personnages un petit peu comme le zoologiste étudie les insectes. Hein, il regarde un peu de l'extérieur leur comportement avec un œil pseudo-scientifique, critique, enfin avec un œil de zoologiste, sans se sentir impliqué nécessairement, mais ça orienterait vers ce type de roman. À l'exclusion, peut-être, ce dont votre livre ne parlait peut-être pas assez nettement, c'est-à-dire le nouveau roman, hein, c'est-à-dire les années 20e siècle, les années 1954 à peu près, et suivantes, hein, le nouveau roman avec, eh bien, moi je dirais, comme exemple, je prendrais Nathalie Sarraute et Alain Robbe-Grillet. Bon, et ensuite, la phrase suivante, ensuite, en situant sur l'idée de représentation de l'homme et du monde, moi je pensais à la photo, ou plutôt à la peinture. Hein. C'est-à-dire que la peinture telle qu'on la ressentait avant l'invention de la photographie et depuis l'Antiquité, et on pouvait la sentir, la peinture, comme représentation de l'homme et du monde. Hein, c'est, voilà. Néanmoins, depuis la photographie, la peinture a été obligée de s'écarter un peu de cette idée de représentation du monde, alors que, par exemple, l'image, hein, vous avez eu, je ne sais pas si c'est fini, à Perpignan, le visa pour l'image qui a lieu tous les ans, et d'une certaine façon, bon, c'est beaucoup de du photojournalisme, de la photo témoignage. Oui, alors là, ce type de photo, représentation de l'homme et du monde. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de romans, hein, qui peuvent être ressentis comme une représentation de l'homme et du monde, réalisme, hein, la terrible comme une orange. Il y a, depuis Baudelaire au moins, la prétention de l'artiste de refaire le monde autrement qu'il est, au contraire. Hein. Donc, et puis vous avez la chanson, est-ce que c'était, non, je ne sais plus de qui c'est, vous le saurez vous, je rêvais d'un autre monde. Voilà. Dans la chanson, on est quelquefois dans l'idéal, ou dans le... Voilà. Donc, ça nous oriente, ça, pas mal. Bon, si on prend, par exemple, le nouveau roman dont j'ai parlé, un roman comme Les Gommes d'Alain Robbe-Grillet ou La Jalousie, bon, c'est quelqu'un qui regarde derrière une fenêtre ce qui se passe à l'intérieur, etc., Ou quand on voit les films qui ont été influencés par le surréalisme, même chose, on nous montre un monde qui ressemble vraiment pas beaucoup à notre monde. Hein. Bon, c'est une diversion peut-être un peu longue. Alors, ensuite, vous aviez, en situant une œuvre dans son contexte littéraire, historique et culturel, on s'interrogera sur l'évolution du genre romanesque. Alors, première chose, en situant une œuvre dans son contexte littéraire, vous n'avez pas au programme d'études d'un mouvement littéraire. Vous l'aviez l'an dernier en seconde, et beaucoup d'entre vous ont étudié le romantisme. Néanmoins, on aura besoin, pour poser des repères dans nos études de texte, on aura besoin d'avoir un minimum de connaissances des mouvements littéraires. Très rapidement dit, 16e siècle, la Renaissance, c'est pas un mouvement littéraire, mais bon. C'est un mouvement artistique, 17e siècle, le classicisme, 18e siècle, et bien les Lumières, ça vous le savez, vous l'avez étudié également en histoire. 19e siècle, on commence à avoir ce qu'on peut avoir des mouvements, des écoles littéraires diversifiées. Alors vous connaissez en principe le romantisme, il faut savoir que, enfin, Vassia, je viens de le dire, c'est-à-dire... Le naturalisme, certains englobent tout le monde dans le naturalisme. Pour ma part, je séparerai réalisme et naturalisme, tout en sachant qu'il y a des gens qui disent « le réalisme, c'est pas un mouvement littéraire ». Et ben moi, je dis « si, c'est un mouvement littéraire ». Alors, le problème, pourquoi on vous donne le romantisme comme mouvement littéraire ? Parce que on est sûr que c'est un mouvement littéraire dans la mesure où les romantiques se réunissent dans les cénacles de Charles Nodier, par exemple, dans la première partie, après dans le cénacle de Victor Hugo. Donc ils forment des groupes, ils se réunissent et ils se voient. Je ne dis pas qu'ils travaillent ensemble, mais ils se rencontrent fréquemment et ils se reconnaissent comme romantiques. La différence, c'est que si vous dites à Flaubert, t'es un écrivain réaliste, il dira non, je ne suis pas un écrivain réaliste, je suis Flaubert. La même chose si vous cherchez à caser Verlaine en poésie, vous aurez du mal, on dira c'est Verlaine. Baudelaire, vous verrez, si vous cherchez sur internet ou ailleurs, ou dans les livres, il y en a qui le classent comme romantique, comme le dernier des romantiques, on vous dit, et puis d'autres, c'est le premier des poètes modernes. Ça veut dire Baudelaire, c'est Baudelaire. Alors qu'il y ait des influences romantiques, etc., qu'il y ait un aspect novateur, c'est-à-dire qui va vers Mallarmé. Bon, alors, Mallarmé, c'est un autre mouvement littéraire, c'est le symbolisme. Bon, qu'est-ce qu'on a dit ? Romantisme, réalisme, naturalisme, symbolisme. Il y a un petit mouvement dont vous n'aurez pas à rendre compte, de toute façon, vous l'avez pas au programme, un autre mouvement qui s'appelle le décadentisme, la décadence, c'est huissement, ça rebours, avec des esseintes. Des esseintes, c'est une tortue sur laquelle on va mettre des diamants. Vous voyez, une espèce de préciosité nouvelle manière et masculine. C'est l'orgue à liqueur, à part deux des esseintes, qu'on va retrouver plus tard au XXe siècle, chez Boris Vian, et on va le trouver au cinéma, dans Barbarella, je vous dis pas l'orgue à quoi, c'est une dame qu'on met dedans, l'orgue à plaisir, si vous voulez, dans Barbarella. J'ai peut-être oublié un mouvement littéraire du XIXe, c'est pas si grave. Au XXe siècle, ce qui va marquer une grande partie à partir de 1925 jusque, disons, presque les années 60, la grande période du surréalisme. Alors vous êtes à côté parce que vous avez Dali, le musée Dali, pas très loin, Figueres, mais j'ai parlé d'Éluard tout à l'heure, c'est aussi un grand nom du surréalisme. Même si le théoricien du surréalisme s'appelle André Breton. André Breton, premier manifeste du surréalisme en 1925, et le deuxième, j'ai oublié quand c'était. le grand mouvement du surréalisme, mais ça, c'est plutôt dans le domaine de la poésie, comme tout à l'heure, le symbolisme, par exemple. Hein, alors que le romantisme, bon, il y a déjà le mot roman dedans, hein, le romantisme, ça intègre à la fois roman, théâtre, poésie. Hein, puisque vous savez que, en ce qui concerne le théâtre, vous avez le drame romantique, hein, donc vous avez le roman romantique, hein, vous avez la poésie romantique, et vous avez, voilà, en quoi c'est un mouvement d'ensemble. Alors c'est vrai que dans une forme d'écriture surréaliste, dans le roman, si vous avez, j'ai dit tout à l'heure Boris Vian, hein, un roman comme L'écume des jours, qui est un très joli roman, il a écrit aussi L'arrache-cœur, c'est un peu différent, bon, mais moi L'écume des jours, c'est vraiment un très joli roman, donc si on cherche un roman surréaliste, moi je dirais Boris Vian, L'écume des jours. Vous avez aussi J'irai cracher sur vos tombes, bon, qui a été porté au cinéma et qui a tué Boris Vian, puisque c'est à la retour d'une projection de son œuvre au cinéma qu'il a eu sa crise cardiaque et qu'il est mort. Hein. C'est vrai que Vian était aussi trompettiste de jazz qui jouait du cornet, hein, mais pas vraiment de la trompette. Donc, le surréalisme, surtout orienté sur la poésie quand même, et puis tout un tas de créations bizarres. Vous voyez au musée d'Ali, bon, c'est un peu le musée des horreurs aussi, hein. il faut quand même le dire. Hein. Mais bon, on cherche à heurter le spectateur d'une façon ou d'une autre. Et ça échappe, bien entendu, soit à la peinture, soit à la poésie. Hein, ça y échappe par plusieurs angles, parce qu'on fait des marionnettes, on fait des crânes. Bon, ça touche à l'architecture, au bricolage, éventuellement. On fait des machines bizarres qui servent à rien. Voilà. Hein, bon, surréalisme, c'est un mouvement de révolution artistique, hein, pas littéraire seulement, hein, puisque je vous ai dit que ça touchait plusieurs domaines, mais c'est un mouvement de révolution artistique. J'ai oublié un autre mouvement avant, c'est le mouvement Dada. Les dadaïstes, eux, c'est des terroristes de la littérature, hein, c'est tout fiche en l'air. C'est faire exploser la littérature. Alors, ce qu'on a oublié aussi, c'est tout ce qui tourne autour de Pérec, c'est-à-dire le mouvement Oulipo, qui est en relation avec ce que vous vivez actuellement, c'est-à-dire que ça accompagne les débuts de l'informatique. Hein, c'est-à-dire qu'on fabrique des textes avec des ordinateurs, etc. etc. Hein. Donc les dadaïstes, le mouvement Oulipo, les surréalistes, des révolutionnaires, et puis en dernier, alors qui nous concerne à propos du roman, c'est-à-dire le nouveau roman. Hein, nouveau roman, je l'ai dit, Nathalie Sarraute et Alain Robbe-Grillet, vous trouverez encore d'autres noms. Qu'est-ce qu'il y a à propos du nouveau roman? Parce que, moi je dirais, on va étudier les personnages cette année, un certain refus du personnage. C'est-à-dire que dans le nouveau roman, on va beaucoup décrire des intérieurs, des objets, etc. On a l'impression que le personnage, on n'en veut plus. C'est un peu ça, l'idée d'une espèce d'impression de vide. Pensez au film, si vous avez l'occasion de voir le film India Song, une très belle musique d'India Song d'ailleurs, hein, c'est peut-être ce que je préfère. Dans tout ce que j'ai jamais entendu. Donc dans ce film d'India Song, ben, on visite en gros un intérieur bourgeois, mais sans personne dedans, quoi. Et puis très froid, hein, l'intérieur très froid. Et alors après, alors là après on est bien gêné. Hein. Je sais pas, si vous trouvez des choses, vous me le direz. Hein. Après quoi? Parce que le nouveau roman, ça va être quoi? Ça va être, je vous ai dit, vers 54, jusqu'aux années 60 à peu près, et après. Rien. Rien à ma connaissance. Hein, c'est-à-dire que il y a des romans qui sortent. Hein, là, pour le. Puisqu'on va avoir le prix Goncourt sous peu, hein, les prix littéraires, le Goncourt, le Renaudot, etc. Il est sorti, je ne sais pas si c'est 500 ou 5000 romans nouveaux, hein, pour qui veulent concourir pour, disons 500, ça serait déjà pas mal. qui veulent concourir pour le Goncourt, pour le Renaudot, pour le Médicis. Mais alors, comment les caractériser? Je ne sais pas trop. Moi, je dirais qu'on est assez globalement, on est revenu à des écritures qui ne sont pas vraiment du 19e siècle réaliste, mais qui sont quand même... Alors, c'est un peu plus moderne, mais c'est assez proche quand même. On est revenu plus à une écriture beaucoup plus proche du réalisme, dans laquelle écriture soit l'auteur, hein, dans le cas de récits ou de textes autobiographiques, soit les personnages ont repris une place normale. Moi, je dirais qu'il y a quand même une, et c'est peut-être pour ça qu'on l'avait mis au programme, il y a quand même une grosse tendance à l'autobiographie. Hein, les textes, donc on n'est plus tout à fait dans le roman. Hein, même si quelquefois on associe les deux termes, on dit roman autobiographique. Hein, pensez, ben, vous avez entendu parler d'Amélie Nothomb, hein, voilà, on est quasiment partout dans l'autobiographie, hein, même s'il y a dans ces romans un aspect de fiction, d'invention, on est dans une écriture relativement autobiographique. Et chez les autres romanciers, Georg Samprun, par exemple, d'origine espagnole, mais qui écrit en français parfaitement, lui, il a vécu l'expérience des camps de concentration. Bon, alors, toute une partie de son œuvre, ou presque toute, sort de l'expérience des camps. Alors, très fortement aussi marqué par l'autobiographie. Si vous regardez dans les titres de romans, vous allez... Ou alors, évidemment, d'autres romans sans trop de prétention, qui sont des... Bon, peu de petites histoires de couple, d'amour, etc. Voilà. Hein, mais là, on revient à ce dont, il me semble, on avait parlé avec vous, qu'on a appelé les romans de gare, c'est-à-dire le truc que vous emmenez à la plage, ça vous dérange pas trop, bon, c'est pas à la gare, c'est à la plage, puis ça vous fait passer le temps pendant que vous êtes en train de griller au soleil. Mais est-ce que c'est de la littérature, quoi? Voilà. Oui, moi je dirais c'est de la littérature, mais bon, il y a plusieurs niveaux. Bon, on revient. Donc est-ce qu'on a fait tout? Non. On a fait le contexte littéraire. Historique, ben, on verra bien. Culturel, oui, on en a parlé un peu, c'est-à-dire que on ne parle pas de littérature sans penser à la peinture, à la musique également, pourquoi pas à la sculpture. Et enfin, on s'interrogera sur l'évolution du genre romanesque, ça j'en ai parlé un peu, mais on va en reparler. Alors, la première partie de la question, si je ne l'ai pas laissée, si l'origine du terme roman, est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait? Qu'est-ce que ça veut dire au départ un roman? Donc, un roman... C'est un texte écrit en langue romane, c'est-à-dire pour nous, en français, mais vu l'époque à laquelle on l'utilise, c'est-à-dire au Moyen-Âge, ça veut dire en ancien français. Donc, vous allez avoir le premier... Alors, donc on va commencer, nous, pour nous, l'histoire du roman, on creusera. Mais le roman, il faut le faire naître en France, au Moyen-Âge. Et le premier titre que je vais vous donner, c'est... Le roman de la rose de Jean de Meung et Guillaume de Loris. Alors, ce texte-là est donc écrit... Alors, oui, vous dire aussi que... On vous dit ouvrage écrit en langue romane parce que l'essentiel des ouvrages au Moyen-Âge en France sont écrits en latin. Hein? La langue scientifique, la langue littéraire, au départ en France, c'est le latin. Donc si on vous dit écrit en langue romane, c'est par opposition au texte latin. Donc ce texte-là est écrit en ancien français. L'ancien français, c'est d'abord une langue au départ qui est parlée. Ce sont même plusieurs langues. Hein, c'est langue romane, On ne parle pas la même langue en Picardie, on parle Picard. En Normandie, on parle l'anglo-normand parce qu'il y a des influences anglaises. Un peu plus au sud, on va parler occitan. Un peu plus au sud, on va parler catalan. On a regroupé les langues du Nord sous le titre les langues d'Oyle, hein, parce qu'on dit Oyle pour dire oui dans le Nord, et les langues du Sud, les langues d'Oc, parce qu'on dit Oc pour dire oui, hein, dans le Sud. Voilà. Pas OK, vous voyez, pas encore. Hein, c'est simplement Oc. Langue d'Oc, ça veut dire langue du Sud. La langue où on dit ok pour dire oui. Bah c'est tout ce qui est, moi je dirais sud de la Loire. Hein. Peut-être plus au sud que ça quand même. Hein. Prends la frontière, il y a le fait libre aussi à côté de l'Occitan. Hein. Tu prends le nord des monts d'Auvergne, hein, tout ce qui est au sud, donc à partir de l'Auvergne, en dessous, on va... Bon, bien entendu, la région qu'on appelle Languedoc, maintenant, elle est plus limitée que ça. Hein. Donc, ce roman de la Rose, eh bien, c'est pas un roman. Mais c'est un roman. Alors, pourquoi ? Non, mais je reviens à mes aux définitions de base. Qu'est-ce que c'est que la poésie ? Qu'est-ce que c'est qu'un roman ? Qu'est-ce que c'est qu'une nouvelle ? Un roman, c'est un bouquin sur la couverture duquel c'est écrit « roman ». Voilà. La poésie, c'est ce qu'il y a dans un bouquin sur lequel c'est écrit « poésie ». Hein? Et une nouvelle, c'est un bouquin sur la couverture duquel il est écrit « nouvelle ». Si c'est écrit « conte », c'est un conte. Hein, si c'est écrit récit, c'est un récit. Voilà, c'est comme le porcel, c'est écrit dessus. Voilà, hein, c'est comme ça. Par exemple, Baudelaire, les petits poèmes en prose, c'est Baudelaire qui nous dit que c'est de la poésie en l'intitulant petit poème. Hein, voilà. Bien que ça ait tout un... Bon, ça a l'allure de la prose, nous dit c'est de la poésie. Alors néanmoins, je vous dirais sérieusement que le roman de la Rose, c'est écrit en vers, hein, mais après tout, si on pense à la poésie dramatique, au théâtre, On va appeler théâtre aussi bien du théâtre qui est versifié, qui est écrit en vers. Hein, je pense à, par exemple, Ruy Blas de Victor Hugo, qui est écrit en vers. Si le texte de théâtre est écrit en prose, ben ça, c'est toujours du théâtre dans les deux cas. Qu'il soit écrit en vers, qu'il soit écrit en prose. On pourrait presque dire la même chose du roman. On peut, et on va y venir, à quelque chose qu'on va... Monsieur Despakis. Gagner sa moyenne. Donc, en ce qui concerne le roman de la Rose, je ne le perçois pas comme un roman. Hein. À y regarder de près, mais on peut y regarder encore de plus près que moi, hein, mais à y regarder bon, d'un peu près... Je vous dirais, c'est un art d'aimer. Hein, c'est-à-dire, comment on doit faire avec les femmes. Voilà. Comment on fait pour aimer. Alors, cet art d'aimer, il appartient à quel genre ? Ben, peut-être bien à la poésie. Hein, peut-être bien à la poésie. Par contre, il y a un autre roman en vers que vous connaissez au moins certains, du Moyen-Âge, qui met en scène un animal, et voilà, c'est écrit en vers, mais ça a un peu plus l'allure de roman, parce qu'il y a des épisodes, parce qu'il y a des aventures, voilà, hein, et parce qu'il y a un personnage, un héros, hein. Donc on a besoin d'un héros, on a besoin de personnages. Remarquez que, par exemple, dans la poésie épique, là je pense à un autre ouvrage du Moyen-Âge qui est la chanson de Roland, bon, on a un héros, on a Roland, on a des personnages, on a des péripéties, des aventures, etc. Hein? Bon, alors, néanmoins, ça appartient à un genre particulier qu'on appelle la chanson de geste, et ça n'est pas perçu, hein, comme un, ça n'est pas perçu comme un roman. Alors, ce roman, qui met en scène, si vous voulez terminer l'année dans la classe, il faudra changer votre comportement. Hein? Parce que moi, je n'hésiterai pas. Hein. Et là, c'est un avertissement, mais ça descendra derrière, hein, très vite. Donc alors, un personnage, animal, Moyen-Âge, rusé, le roman de Renard. Hein. Comment j'écris Renard dans le roman de Renard? Avec un T. Hein. Vous savez qu'autrefois, les renards, ça s'appelait des goupils, hein, et que c'est depuis le roman de Renard qu'on a pris le nom. Hein, autrefois, un hypocrite, on disait un hypocrite, maintenant on dit un tartuffe, depuis la pièce de Molière, hein, ou on dit un harpagon pour désigner un avare. Bon, même chose en ce qui concerne ici, Renard le goupil. Le roman de Renard, donc... C'est un texte qui a eu plusieurs auteurs, il y a eu plusieurs continuations. L'essentiel du roman de Renard est écrit en vers. Hein? Donc comme de la poésie. Néanmoins, je vous ai dit, on a déjà l'idée du roman à cause du héros, à cause des aventures qui se succèdent. Moi, je dirais à cause du parcours temporel. Hein? À cause du parcours temporel. J'ai assez l'habitude de dire à propos du roman, ce qui pour moi constitue un roman, c'est quelque chose qui vous installe, alors bien sûr il y a des romans très courts, qui vous installe dans une durée. Hein, c'est-à-dire que il vous occupe tellement longtemps que vous sortez de votre vie d'une certaine façon pour rentrer dans un univers différent et y passer du temps, avoir le temps de vous installer dans la durée. Alors je reviens sur les titres comme ça, à propos de romans et nouvelles. Il y a une nouvelle qu'on va étudier, qu'on a étudiée avec notre seconde, qui est Carmen de Mérimée. Hein, Carmen de Mérimée, vu la longueur, on pourrait hésiter, hein, à savoir si c'est un roman ou si c'est une nouvelle, parce que c'est relativement long. Vous savez que des nouvelles, il y en a d'une page. Hein, il peut y avoir même une nouvelle d'une demi-page, pourquoi pas. Hein, donc Carmen, c'est quand même quelque chose de plus consistant, et en plus, c'est une nouvelle qui a donné naissance à un mythe, c'est-à-dire que Carmen, derrière, il y a eu l'opéra, c'est un soufflet qui a bien pris, en quelque sorte, hein, qui a pris du volume. Hein, le personnage de Carmen, c'est quelque chose qui tient largement autant, sinon plus, que Madame Bovary, qu'on va voir. Hein. Donc, on l'appelle nouvelle parce que c'est écrit nouvelle, parce que Mérimée écrit une nouvelle, voilà, c'est tout. Hein, néanmoins, on aurait pu hésiter à le nommer. Alors, on a dit, le roman de la rose. Alors, vous pourrez, pour ceux qui ont Internet, trouver le texte intégral, je ne pense pas que ça vous passionne, mais vous pouvez jeter un œil, du roman de la rose. Vous avez aussi un petit extrait qui est lu en ancien français. si vous voulez avoir l'idée de à quoi ça ressemble, hein, l'ancien français. Et il y a l'extrait, il y a le texte en ancien français et il y a aussi une lecture. Alors, un autre type de roman. Là, vous avez eu quoi ? Vous avez eu le roman de La Rose, un roman qui n'est pas un roman, qui est plutôt de la poésie. Vous avez le roman de Renard. Ben là, on n'est pas loin du roman animalier, d'une certaine façon, ou du ce qu'on pourrait appeler aussi le roman satirique. Hein, c'est-à-dire que on peut voir dans les relations de Renard avec le château, hein, en particulier, hein, on a pu voir une satire de la société médiévale, de la société féodale. Hein. On a pu voir derrière, alors ça dépend en quelle partie du roman de Renard, hein, mais il y a une partie du roman de Renard qui est satirique. Il y a d'autres parties qui sont simplement amusantes, par exemple Renard et les pêcheurs, les relations avec Isengrin, le loup, etc. On est plutôt du côté, là on serait plutôt du côté du roman comique d'une certaine façon. Hein, on n'est pas très éloigné de la fable aussi, bien sûr. Hein, on n'est pas très éloigné. Sauf que la morale, c'est pas très moral. Mais rappelez-vous quand même que les petits textes du Moyen-Âge qu'on appelait les moralités, hein, et vous savez que dans les petits textes au Moyen-Âge, vous avez les fabliaux, qui font un peu penser aux fables, mais qui ne sont pas très moraux, hein, et les moralités, même chose, les moralités, c'est des histoires qui sont souvent assez scabreuses et pas très morales. C'est pour ça qu'on ne les étudie pas beaucoup en classe. Hein. Voilà. Donc, le roman de Renard, roman satirique, roman animalier, roman comique, mais vous avez une autre catégorie, je viens de parler de société féodale, ben, les sociétés féodales, les chevaliers. Hein, donc vous avez les romans de chevalerie. Vous savez, ces romans qui ont rendu Don Quichotte malade dans sa tête parce qu'il en avait trop lu. Hein. Vous savez, Don Quichotte, au XVIIe siècle, hein, veut jouer le chevalier errant et qu'il confond les moulins à vent avec des géants, etc., les moutons avec des lions, bon, il n'est pas bien, et qu'il est accompagné d'un personnage comique, comme dans Laurel et Hardy, vous avez le grand maigre et puis le petit gros, hein, et l'autre personnage, c'est Sancho Panza, qui est son serviteur. Aussi également le couple Maître Valet que vous trouverez un petit peu partout. Bon, donc vous avez des romans de chevalerie et le premier c'est Lancelot ou le chevalier à la charrette. Hein. Vous trouverez aussi bien le chevalier de la charrette que le chevalier à la charrette, c'est pas très important. Ça peut simplement vous rappeler que ce texte-là, quand vous lisez en français, il est traduit de l'ancien français, hein, comme tous les textes du Moyen-Âge. Donc on peut traduire à ou deux, hein, suivant son goût. Pourquoi le chevalier à la charrette ? Alors le schéma du chevalier à charrette est très simple. On a enlevé la reine, c'est un méchant qui s'appelle Méléagan. C'est presque, il y a presque l'idée de méchant dans son nom. Et Lancelot est chargé d'aller la délivrer dans la tour où elle est prisonnière. Hein? Mais avant le combat singulier qui va terminer ce roman, Lancelot va devoir affronter une série d'épreuves, comme tout héros qui se respecte, qui sont en même temps sont des épreuves à la fois initiatiques, hein, on est plutôt. Alors vous connaissez vous aussi, hein, parce que c'est très à la mode aussi les romans initiatiques. Alors, ça sera à la fois initiatique et en même temps ce qu'on peut appeler par ailleurs un roman de formation, un roman d'éducation, dans lequel on va passer d'un du chevalier qui a peur des femmes, qui a peur d'un tas de choses, hein, au chevalier accompli qui va lui affronter le mal, d'une certaine façon, hein, puisque lui il va représenter le bien et Méléagan représente le mal, il va l'affronter à la fin de l'histoire. Pourquoi la charrette? Parce que au tout début du roman, il rencontre un nain qui conduit une charrette. Oui, un nain, il n'est pas grand, oui, voilà, oui. Donc il conduit une charrette et qui lui dit, oui, je sais où, je sais dans quelle direction est partie la reine, mais il faut monter dans ma charrette pour que je vous conduise. Et pour le chevalier, c'est une humiliation de monter dans une charrette, parce que le chevalier doit être à cheval. Et donc, première épreuve, Lancelot va s'humilier pour pouvoir aller délivrer, c'est la première épreuve, pour aller délivrer la reine. Alors, à côté de ce Lancelot un peu isolé, vous avez aussi toute une série de romans qu'on appelle le cycle de Bretagne. Les romans de Chrétien de Troyes, dont vous avez dû entendre parler au collège en principe, ça m'étonnerait que vous ayez fait tout le parcours collège, en particulier la 5e si je me rappelle bien, sans voir les romans de Chrétien de Troyes. Et puis parmi les plus connus, vous avez Perceval, vous savez aussi, alors s'il y en a un qui a le film, il me le dit, Perceval le Gallois, avec Fabrice Lucchini. Moi je l'ai peut-être, mais j'ai tellement qu'il faut que je fasse des recherches pendant des mois. Voilà. Donc, Lancelot déjà, c'était déjà un peu un anti-héros, c'est-à-dire un héros qui rate ou qui a peur. Mais Perceval, lui, c'est un anti-héros accompli. C'est un jeune homme que sa maman n'a pas voulu qu'il soit comme son papa, qu'il soit chevalier, donc elle l'élève un peu à l'écart, lui dit pas ce que c'est qu'un chevalier, et puis un beau jour, par hasard, des chevaliers viennent à passer. Alors d'un seul coup, il les prend pour des dieux, parce qu'ils ont des armures brillantes, etc. Un peu comme les Indiens, quand ils ont vu débarquer les Espagnols en Amérique, ils les ont pris également pour des dieux. Ben Perceval, il prend les chevaliers pour des dieux. Vous avez du travail, on poursuit la prochaine fois.